Nous avons à peu près expliqué les variétés qui résultent des figures, des combinaisons et les transformations mutuelles des corps. Il faut maintenant essayer de faire voir les causes des impressions qu'ils font sur nous. D'abord, quels que soient les objets dont on parle, il faut qu'ils provoquent une sensation. Mais nous n'avons pas encore exposé l'origine de la chair et de ce qui a rapport à la chair, ni de la partie mortelle de l'âme. Or, il se trouve qu'on ne peut en parler convenablement sans traiter des impressions sensibles, ni de celles-ci sans traiter du corps et de l'âme, et que traiter les deux choses à la fois est à peu près impossible. Il faut donc admettre l'une des deux comme démontrée, et revenir plus tard à celle que nous aurons admise. Présupposez donc ce qui regarde le corps et l'âme, afin de traiter les impressions immédiatement après les espèces qui les produisent. En premier lieu, pourquoi disons-nous que le feu est chaud? Pour étudier la question, observons l'action tranchante et coupante du feu sur nos corps. Que l'impression qu'il cause soit quelque chose d'acéré, j'imagine que nous le sentons tous. Pour nous rendre compte de la finesse de ses arêtes, de l'acuité de ses angles, de la petitesse de ses parties, de la rapidité de son mouvement, toute propriété qui le rend violent et tranchant et grâce auquel il coupe vivement tout ce qu'il rencontre, il faut nous remémorer comment sa figure s'est formée. Et nous verrons que sa nature est plus capable que toute autre de diviser et de réduire les corps en menus morceaux, et que c'est elle qui a naturellement donné à ce que nous appelons chaud son impression sensible et son nom. L'impression contraire à celle de la chaleur est assez claire. Néanmoins, nous ne laisserons pas d'en parler. Des liquides qui entourent notre corps, ceux qui ont les particules les plus grandes, pénétrant en lui, refoulent ceux qui ont les particules les plus petites. Mais comme ils ne peuvent se glisser à leur place, ils compriment l'humidité qui est en nous, et d'hétérogène et mobile qu'elle était, ils la rendent immobile en la faisant homogène, et la coagulent en la comprimant. Mais un corps comprimé, contrairement à sa nature, se défend naturellement en se poussant lui-même en sens contraire. À cette lutte et à ses secousses, on a donné le nom de tremblement et de frisson, et l'ensemble de ses impressions et l'agent qui les produit ont reçu celui de froid. Dur est le terme appliqué aux objets auxquels notre chair cède, et mou indique ce qui cède à notre chair, et les mêmes termes s'appliquent aux objets à l'égard les uns des autres. Cela cède qui repose sur une petite base, au contraire, ceux qui ont des bases quadrangulaires et sont par là, solidement assis, forment l'espèce la plus résistante. Et il faut y comprendre tout ce qui, étant d'une composition très dense et très rigide. Pour le lourd et le léger, c'est en les considérant en même temps que la nature de ce qu'on appelle le haut et le bas qu'on l'expliquera le plus clairement. Clier naturellement deux régions opposées qui partagent l'univers en deux, l'une étant le bas vers lequel tombe tout ce qui a une certaine masse corporelle, et l'autre le haut où rien ne s'élève que par force, c'est une erreur complète de le croire. En effet, le ciel étant complètement sphérique, tous les points qui, étant à égale distance du centre sur ses extrémités, sont tout pareils en tant qu'extrémité, et le centre distant dans la même mesure de tous les points extrêmes doit être conçu comme opposé à eux tous. Le monde étant ainsi disposé, quel est celui des points en question qu'on peut mettre en haut ou en bas sans être justement blâmé de lui imposer un nom tout à fait impropre? S'agit-il du lieu qui est au milieu du monde? Il n'est pas juste de dire qu'il est naturellement bas ou haut. Il en est simplement le centre. Quant au lieu qui l'entoure, il n'est pas le centre et ne contient aucune partie qui soit différente d'une autre et plus près du centre que l'une quelconque des parties à l'opposite. Or, comment peut-on appliquer des noms contraires à ce qui est exactement de même nature et comment croire qu'alors on parle juste? Supposons en effet qu'il y ait un corps solide en équilibre au centre de l'univers. Il ne se porterait jamais à aucune des extrémités à cause de leur parfaite similitude. Supposons encore que quelqu'un fasse le tour de ce corps. Il se trouverait souvent antipode de lui-même, et il appellerait bas et haut le même point de ce corps. Puisque, comme nous venons de le dire, le tout est sphérique, il n'y a pas de raison d'appeler tel endroit bas, tel autre haut.